Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a 150 ans, le 8 décembre 1864, le pape Pie IX lançait son syllabus, qui provoqua dans l'opinion publique de l'époque une émotion à peu près équivalente à celle que fit récemment un certain 11 septembre l'écroulement des deux grandes tours de New York. Et pourtant, ce syllabus de Pie IX n'était ni un avion ni une bombe, mais un petit document de 3 ou 4 pages. Il ne contenait ni manifeste terroriste, ni appel au meurtre, ni l'expression d'une quelconque passion violente. C'était seulement une liste de 80 phrases, 80 propositions, avec chacune son numéro, que le pape avait réunies pour les dénoncer comme les principales erreurs du monde moderne. Et ce document avait le plus simple des titres, « Liste d'erreurs », en latin, « Syllabus errorum ». Pie IX le joignait en annexe à l'encyclique Quanta Cura qu'il adressait ce 8 décembre 1864 à chacun des évêques catholiques du monde. Sur le fond, il n'y avait rien de bien neuf. Le pape ne faisait que rappeler la doctrine catholique, celle de Jésus-Christ, et dénoncer les erreurs déjà condamnées depuis longtemps. Et pourtant, ce document provoqua dans le monde une émotion indescriptible. Ce fut dans certaines bouches comme un long hurlement de rage qui ne dura pas 3 ou 4 jours, comme la plupart des tempêtes médiatiques, mais des années et même des décennies. En France, l'empereur Napoléon III censura le document et interdit aux évêques de le publier. En Italie, on organisa des manifestations de rue où des foules surexcitées brûlaient le texte du pape tout en injuriant l'Église. Partout, la presse maçonnique était déchaînée. Et le plus incroyable de tout, c'est que 20 ans, 30 ans, 50 ans après, le seul nom du syllabus suffisait encore à susciter des passions violentes chez des gens qui n'en avaient pas lu le premier mot. Alors évidemment, la question se pose, pourquoi tant de hargne? Que contient donc ce syllabus? Le syllabus de Pie IX, mes bien chers frères, ne contenait pas une seule fois le nom franc-maçonnerie. Il se contentait de dénoncer des idées fausses, des principes d'erreur, sans indiquer qui enseignait ces erreurs et qui les mettait en pratique. Mais, en gros, on peut dire qu'il dénonçait point par point tout le programme de la franc-maçonnerie, sans s'arrêter au folklore extérieur, puisqu'il ne la nommait même pas, mais en mettant le doigt là où ça fait mal, sur les racines cachées, les principes souterrains de la secte. Ce ne sont pas les tours de New York, c'est la tour de Babel du monde moderne qui était visée, et pas seulement dans son sommet, mais à la base, jusque dans ses fondations idéologiques. Bien sûr, il serait trop long de lire ensemble les 80 propositions ainsi pointées du doigt par le syllabus. Mais il faut quand même en regarder quelques-unes pour bien saisir la force et la clairvoyance de Pie IX. On peut dire que toutes les grandes encycliques papales qui viendront par la suite, notamment celles de Léon XIII, de Saint Pie X, de Pie XI, même le Concile Vatican I, ne sont qu'une explication et un développement des condamnations du syllabus. Prenons donc d'abord la première proposition du syllabus, la première erreur dénoncée par le pape, car c'est une liste d'erreurs. Citation de cette erreur, « Il n'existe aucune force divine suprême, sage et prudente, qui soit distincte de notre univers. Dieu est identique à la nature des choses et par conséquent soumis au changement. En réalité, Dieu se fait dans l'homme et dans le monde. Et tous les êtres sont Dieu et de la nature même de Dieu. Vous avez reconnu, c'est l'erreur qu'on appelle le panthéisme, la croyance que tout est Dieu. Évidemment, quand il est ainsi résumé en quelques phrases, le panthéisme apparaît pour ce qu'il est, une absurdité sans nom, une pure folie, parce que s'il est une chose absolument évidente pour chacun d'entre nous, c'est que nous ne sommes pas Dieu. Si vous rencontrez dans la rue quelqu'un qui se présente à vous en disant « Bonjour, je suis Dieu », vous serez tenté de contacter l'asile. Et pourtant, les francs-maçons se prennent pour Dieu. Ils ne le disent pas aussi clairement, mais c'est le fond caché de toutes leurs initiations successives. On peut même aller plus loin et dire que le panthéisme, cette prétention à être Dieu, est comme le grand secret du monde moderne. Pie IX le dénonçait déjà comme première proposition du syllabus. Bien plus tard, Pie XI emploiera l'expression, pour désigner l'erreur du monde moderne, l'expression « panthéisme humanitaire ». Panthéisme, tout est Dieu, mais panthéisme humanitaire, parce que c'est en l'homme que l'univers peut prendre conscience de sa divinité, donc un certain culte de l'homme. Encore une fois, quand on regarde froidement les choses, c'est du délire. La chose n'est donc pas affirmée d'emblée aussi clairement. Mais c'est le principe souterrain qui explique tout et qui, avec le temps, avec l'évolution du monde, devient de plus en plus clair. Notez que même des non-catholiques le remarquent et parfois s'en moquent, comme ce romancier qui invente pendant quelques années une religion qui s'appellera le « Dieu tout-le-mondisme », dans lesquels les hommes se prient entre eux en disant « Je suis Dieu, tu es Dieu, mais je ne suis pas Dieu sans toi et tu n'es pas Dieu sans moi, nous sommes tous Dieu ensemble, Amen ». C'est à peine caricatural. L'homme moderne s'adore lui-même. Et même s'il se dit sans religion ou athée, ne le croyez pas. C'est vrai en sens qu'il n'a pas la vraie religion et qu'il n'honore pas le vrai Dieu. Mais il a quand même nécessairement une divinité, une idole ou une idéologie, parce que quiconque n'adore pas le vrai Dieu est idolâtre. C'est inévitable. Et la laïcité que prône notre république maçonnique n'est pas, comme se l'imaginent beaucoup de naïfs, l'absence de religion et encore moins la neutralité. C'est justement le nom de code de la religion officielle, ce panthéisme humanitaire que dénonce la première proposition du syllabus. Et à partir de là, à partir de ce panthéisme, tout s'enchaîne logiquement. Parce que si l'homme est Dieu, il est sa propre loi, c'est lui qui définit le bien et le mal, et on voit s'enchaîner toutes les erreurs. Le démocratisme, la seule loi qui s'impose à l'homme, c'est la loi de l'homme. Notez bien que Pie IX ne condamne pas la démocratie en soi, qui est une forme de désignation du chef dans une société ou dans une autre, qui a ses avantages et ses inconvénients selon les lieux, selon les temps, selon les sociétés dont il s'agit. Mais en revanche, il condamne le démocratisme, c'est-à-dire cette croyance que la volonté des hommes serait la seule source de la loi et qu'elle pourrait tout faire varier à sa guise. Et il la condamne de façon assez claire en remarquant que la démocratie ainsi conçue, c'est tout simplement la loi du plus fort. La loi du plus nombreux est obtenue par la loi du plus fort. Et comme ce plus fort ne s'estime tenu par aucune règle extérieure à lui, ça sera nécessairement la tyrannie. Le syllabus dénonce également deux autres erreurs qu'on pourrait dire jumelles et qui sont le libéralisme et le socialisme. Dans le monde actuel, au point de vue économique, on présente ça comme l'alternative. On est libéral ou socialiste, ou bien on mélange un petit peu les deux. Eh bien, Pie IX condamne les deux, et le libéralisme et le socialisme, qui ne sont que deux formes jumelles du même culte de l'homme. Simplement, d'un côté, du côté libéral, on adore l'homme dans les individus humains. Donc, chaque individu doit pouvoir faire ce qu'il veut. Il est son propre maître, il est libre. La seule limite, ça sera les droits de l'individu d'à côté. Mais il n'y a pas d'autre limite à la liberté que les droits des autres individus. Ça, c'est le libéralisme. Le socialisme, lui, considère aussi que l'homme est Dieu, mais c'est l'homme en groupe, en corps constitué. Et donc, c'est l'État qui dirige tout et qui, de fait, détruit toute liberté parce que les hommes, ainsi réunis, en groupe, vont pouvoir atteindre la divinité. Des deux côtés, c'est l'idolâtrie, le culte de l'homme. Autre conséquence, c'est la destruction de tout l'ordre naturel et particulièrement de la famille. Pie IX insiste dans son syllabus sur le mariage, expliquant que le mariage, l'union d'un homme et d'une femme pour leur vie entière, le mariage n'est pas une création humaine, c'est dans la nature humaine et l'homme ne peut pas en disposer à sa guise. Or, si l'homme se croit Dieu, il peut changer le mariage et en faire ce qu'il veut selon les temps et les lieux, comme nous le voyons malheureusement. Autre erreur dénoncée par Pie IX, c'est l'application de ces principes au christianisme. Comment les francs-maçons réagissent-ils face à l'évangile, face à la religion chrétienne? Il y a deux possibilités. Soit ils le refusent complètement, c'est les francs-maçons les plus anticléricaux, les plus antichrétiens, qui vont mener la lutte à mort contre le christianisme, soit on essaye de le récupérer en disant que le christianisme est tout à fait acceptable, mais c'est un mythe qui nous aide à prendre conscience du fait que nous sommes Dieu. Et c'est la récupération, on peut dire, moderniste du christianisme, qui est aussi dénoncée par Pie IX. Enfin, et c'est la dernière proposition du syllabus, la dernière erreur, l'erreur numéro 80 qu'il condamne, le souverain pontife peut et doit se réconcilier avec le progrès, avec le libéralisme, avec la civilisation moderne. C'est la fameuse proposition 80, donc une erreur dénoncée par Pie IX et qui a fait hurler encore plus les francs-maçons qui disaient, ben voyez, comme le pape refuse le progrès, refuse la civilisation moderne et refuse toute entente avec nous. Et effectivement, le pape Pie IX refusait ce faux progrès, refusait cette fausse civilisation et n'avait aucun besoin de réconcilier l'Église avec progrès et civilisation puisque l'Église en est la mère. Le progrès humain qui a pu être apporté par le christianisme n'a jamais été séparé de l'Église et l'Église a produit la civilisation. En revanche, Pie IX s'opposait toutes ses forces à l'idée que l'Église puisse passer un accord avec cette nouvelle religion maçonnique. Et pourquoi rejetait-il cette idée? Eh bien parce que l'idée était dans l'air. Vous savez peut-être que déjà des prédécesseurs de Pie IX avait fait saisir, la police vaticane avait saisi des documents maçonniques, les documents de la haute vente, dans lesquels étaient exposés les plans pour essayer petit à petit de préparer un pape qui s'accommoderait aux idées maçonniques. Nous devons préparer, disaient ces plans, un pape selon nos besoins, afin, continuait-il, de pouvoir avoir une révolution en tiare et en chape, c'est-à-dire une révolution qui sera menée par le pape lui-même et, continuait-il aussi, que les gens croyant marcher derrière le successeur de Pierre marche en réalité derrière nos principes humanitaires. Et même Pie IX a été abordé par les francs-maçons au début de son pontificat. Ceux-ci ont essayé de le flatter, de l'encenser, de le couvrir de fleurs pour essayer de le faire aller dans cette voie. Vous pourriez vous réconcilier avec nous, une sorte d'union secrète de l'Église et de la franc-maçonnerie, et puis on vous tolérerait à l'état de mythe, mais on vous tolérerait. Et puis l'homme, l'humanité pourrait continuer à progresser. Évidemment, Pie IX a refusé de toutes ses forces, et c'est pourquoi il a été fortement combattu par la Révolution. Au moment où il lance son syllabus en 1864, ses états pontificaux sont fortement menacés, ils ont été attaqués, ils sont assiégés, et les forces révolutionnaires espèrent que ça va contraindre Pie IX, sinon au silence, du moins à une certaine prudence. Mais Pie IX ne veut pas se taire. Et justement, il veut lancer à la face du monde moderne, du monde maçonnique, la condamnation de ses principes en montrant la folie, en montrant l'absurdité. Et il refuse absolument tout accord, de même que le refuseront à sa suite pendant un siècle les papes Saint Pie X et autres qui passeront leur temps à dire il y a la religion chrétienne et en face il y a cette nouvelle religion, cette religion de l'homme qui veut se faire Dieu, qui se croit Dieu, et il ne peut y avoir aucun accord. Vous savez malheureusement que juste un siècle après le syllabus est de 1864, en 1962-1965, il y eut le Concile Vatican II et que beaucoup de ses promoteurs, notamment le cardinal Ratzinger, déclara « il faut maintenant faire un contre-syllabus ». Donc le syllabus avait condamné les erreurs modernes, maintenant on va essayer de s'entendre avec elles. On pourrait se demander comment le bon Dieu a permis ça, et c'est sûr que c'est un grand mystère de voir la crise dans laquelle nous sommes actuellement, mais le bon Dieu n'abandonne pas son Église. La preuve en est que justement, ce qui se passe aujourd'hui aurait pu se passer il y a un siècle. Déjà, tout était prêt pour ça, les flatteries près du pape, on aurait pu avoir Vatican II un siècle auparavant. Et ça, Dieu ne pouvait pas le permettre, il a voulu que nous ayons un siècle de grands papes, de grands pontifes qui condamnent sous toutes les formes, sous tous les angles, sous toutes les coutures, ces erreurs maçonniques pour bien nous mettre en garde, qui nous montre en même temps qu'il y avait cette tentation de vouloir accorder l'Église avec eux et que cette tentation était inacceptable. Aussi aujourd'hui, même si nous sommes dans les ténèbres, nous avons toujours avec nous cette lumière qui nous a été donnée par ces grands papes, Pie IX, Saint Pie X, et nous devons continuer à marcher à cette lumière sans nous laisser intimider, sans nous laisser effrayer. Terminons en rappelant que Pie IX a choisi pour lancer ce syllabus, cette dénonciation des erreurs modernes, la date du 8 décembre, qui était évidemment celle de l'Immaculée Conception, mais du 8 décembre 1864, c'est-à-dire le 10e anniversaire de la promulgation du dogme par lui-même, la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception. Il l'avait fait en 1854, il avait promulgué ce dogme. 10 ans après, il donne son syllabus. Pourquoi ? Parce que d'une part, Pie IX a voulu confier à la Sainte Vierge la lutte contre les erreurs modernes. Et il a demandé son intercession. Deuxièmement, Pie IX voyait très bien que ce privilège qu'a eu la Sainte Vierge de l'Immaculée Conception, d'être préservé du péché originel, par le fait même qu'il est une exception, confirme la règle que l'homme non seulement n'est pas Dieu, mais qu'en plus il est déchu, sa nature est blessée, qu'il a besoin d'un rédempteur. Et il sait que c'est une des grandes vérités à rappeler à l'homme moderne. Non, 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 non seulement vous n'êtes pas Dieu, mais ça le simple bon sens le dit, mais en plus votre nature est blessée. Enfin, et troisièmement, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement venu réparer notre nature, il l'élève. Et cette aspiration à la divinité qui est caricaturée par la franc-maçonnerie, par cette religion moderne qui s'imagine que l'homme, sa nature serait d'être Dieu. C'est l'œuvre du singe, le singe de Dieu, le démon, qui ne fait que essayer de copier maladroitement le plan du bon Dieu. Selon le plan du bon Dieu, nous sommes des hommes, uniquement des hommes, c'est notre nature, mais il veut nous faire participer à la vie divine, il veut nous y appeler en notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ça, nous devons d'abord adhérer à notre Seigneur, reconnaître notre petitesse devant lui, reconnaître notre état de créature, profiter du salut qu'il nous apporte. Et c'est justement la Sainte Vierge, dans son Immaculée Conception, qui a le mieux profité de ce salut. Alors, profitons de la journée de demain, la fête de l'Immaculée Conception, qui sera en même temps ce 150e anniversaire du syllabus, pour bien nous remettre ces vérités dans l'esprit, ces vérités importantes. D'abord, je suis une créature, j'ai été créée par Dieu, Dieu me dépasse infiniment, une créature pécheresse, j'ai besoin d'un sauveur qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et même si tout le monde dit le contraire, je veux m'attacher fermement à ce sauveur avec l'aide et l'intercession de la glorieuse, la puissante, la bonne Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.